Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Deux heures pour réveiller nos neurones tout en dégourdissant nos zygomatiques, et ce en grande partie grâce à mon fidèle complice Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane Bern, bonjour à tous. Oui, chaque après-midi nous partons à la rencontre de trois personnages historiques qui sur le papier n'ont rien à voir et qui ont pourtant un point commun. Aujourd'hui dans notre grande série Coucou le CSA, on vous propose une spéciale, les fondus du champagne. Alors attention Stéphane, trois personnages parmi lesquels notre invité du jour, invité exceptionnel qui effectivement n'est pas réputé pour son addiction à la cristalline et qui est donc là à double titre pour son amour des fines bulles mais aussi pour parler de son dernier ouvrage, un roman qui sous couvert de fiction évoque très clairement notre duo Stéphane, je cite, un dialogue entre un élève indolent paresseux et son maître qui va déployer tout son art pour réveiller un esprit brillant mais assoupi. Espérons que dans le roman, le maître soit plus doué pour réveiller l'esprit de son élève. Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour.
Quelle joie de vous avoir. Alors, Les aérostats, c'est le titre de votre dernier roman. On y peut d'emblée rassurer nos auditeurs. Vous n'y parlez pas du tout de Mathieu et de moi.
Ce qui est décevant, d'ailleurs.
Non, mais maintenant, vous m'ouvrez des horizons. Je pense que je devrais vous consacrer un roman. De toute façon, Stéphane, un jour, je vous consacrerai un roman. Vous êtes un trop grand sujet.
Un sujet de la reine. Alors, chère Amélie,
sujet de sa maman,
je vous rappelle le concept de notre émission. Deux heures, trois personnages, un point commun. Aujourd'hui, bisous Claude Évin, les amoureux du champagne.
Alors, les personnalités du jour, c'est ce qui vous intéresse. Eux aimaient tellement le champagne qu'ils l'ont carrément créé. Je vous raconte l'histoire de deux personnages qui ont laissé leur nom à ce célèbre breuvage, la veuve Cliquot et Pierre Pérignon, dit Don Pérignon, qui est, je crois bien, le champagne préféré de notre invité.
C'est mon champagne préféré, en effet.
Quant à vous, Mathieu, vous brosserez le portrait à 99% vrai de notre invité Amélie Nothomb, sachant que vous êtes réputée pour votre fiel, mais en même temps, vous êtes prudent, elle est juste à côté de vous. Vous ne craignez pas qu'elle prenne mal.
Oui, le fiel, c'est quand la personne est en face, en fait. C'est ça.
Déjà que je suis doux comme un agneau, quand la personne est là, en plus, en studio. Mais je mise surtout beaucoup sur le fait qu'à ce stade de l'émission, elle aura déjà bien trop bu pour m'en vouloir.
Oui. Eux font tout avec modération, sauf quand il s'agit de préparer leur chronique. Il travaille jusqu'à plus soif. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, alors vous tous ici, espèce de bambochard, naturellement, on vous dit champagne et tout de suite vous pensez Dom Pérignon, libations et beuveries. Eh bien moi, si l'on me dit champagne, le seul flacon d'exception qui me vienne à l'esprit n'est pas un magnum de veuve Cliquot, Dom Pérignon, mais la Sainte Ampoule, accessoire indispensable au sacre des rois de France depuis le baptême de Clovis.
J'ai une photo avec la Sainte Ampoule.
C'est bien de vous.
Stéphane, on présente également à vos côtés David Castello.
Je suis passionné.
Sur votre portable, vous essayez de nous livrer des bribes de votre vie privée qui peut-être intéresse pas nos auditeurs.
Je suis passionné par la Sainte Ampoule.
Très bien. Vous êtes passionné par la Sainte Ampoule.
Et donc, David Castello Lopez va nous ramener aux origines d'une invention qui a révolutionné la vie des écrivains aussi et des écrivaines.
Le stylo bille.
Ah, je sais que... Mais c'est vraiment mon émission ici.
Mais tout à fait. Oui, c'est sur mesure.
Et évidemment, Olivier Pouls est un peu notre archéologue de la gastronomie. Vous remontez aux origines des plats, des recettes. Aujourd'hui, le biscuit de Reims.
De Reims, qui accompagne le champagne, bien évidemment.
C'est ce qu'on appelle les boudoirs, non?
Ça y ressemble, mais c'est très spécifique. Il a une couleur rose.
Oui, il est rose.
Et vous n'en avez pas apporté?
Eh bien, non, mais je vous ai apporté du champagne.
Vous avez apporté du champagne, je suis vraiment exigeant.
Et un champagne exquis, d'ailleurs.
Oui, il est très bon. Exquis.
Un champagne de vigneron de la maison Wirth-Michel.
Enfin, chère Amélie Nothomb, c'est une séquence assez édifiante de l'émission, je vous préviens. Séquence qui donne à voir la nature humaine dans ce qu'elle a de plus abject, de plus lâche. Il s'agit de notre quiz qui, chaque jour, met aux prises un peu sur. Heureusement, je le concède, Stéphane Bern à quelqu'un qui s'y connaît vraiment en histoire, à savoir Clémentine Portier-Kaltenbach, s'estimant lésée sur les questions. Stéphane s'est souvent exclamé
« Je quitte ce plateau !»
avant de réaliser qu'il ne pouvait pas quitter sa propre émission, c'est compliqué. Notre quiz Bern to be alive, c'est vers 5h10, mais tout de suite, découvrons notre première amatrice de champagne, une certaine veuve Cliquot.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Donnez-moi les femmes du champagne, c'est dans ces termes que j'aurais pu commencer mon récit. Bon, voilà, je l'ai fait. Parce que oui, le champagne a séduit la marquise de Pompadour, George Sand, Marlène Dietrich, Marilyn Monroe ou encore vous, chère Amélie Nothomb. Si j'insiste sur les femmes, justement, c'est parce qu'elles jouent le premier rôle dans l'histoire du champagne. En le dégustant, certes, mais surtout en étant à la tête des plus grandes maisons, Veuve Clicquot, Pommerie, Laurent Perrier, Bollinger, ces prestigieuses maisons de champagne ont tout en commun d'avoir été dirigées par des femmes et plus particulièrement par des veuves. Au XIXe siècle, la femme n'a de droit comptable qu'en tant que substitut de son époux. Le statut de veuve est donc le seul moyen juridique de diriger une entreprise. La première d'entre elles est celle qui nous intéresse cet après-midi. La veuve Clicquot née Nicole Barbe Ponsardin en 1777. Elle est la fille du baron Ponsardin, maire de Reims. De son enfance, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle n'était pas dans le besoin, étant issue d'une grande famille bourgeoise. À 22 ans, Nicole Barbe tombe amoureuse de François Clicquot et l'épouse dans une cave, la Révolution ayant fermé les églises. François Clicquot reprend les affaires de son père, Nicolas Clicquot, qui a fondé en 1772 une maison de champagne. Fort de son expérience dans une banque suisse, il s'avère être un commerçant redoutable. Il fait exploser les ventes de champagne. Sous son impulsion, la production passe vite de 18 000 bouteilles en 1801 à plus de 60 000 en 1804. C'est vrai qu'il y a le sacre de Napoléon. Alors, avec son associé allemand, Louis Bonne, il ouvre de nouveaux marchés en Suisse, en Italie, en Autriche, en Pologne, en Suède et surtout en Russie. La priorité de la maison. C'est vrai que ça se marie bien avec le caviar. Mais en octobre 1805, de retour de voyage, François Clicquot est emporté subitement par une mauvaise fièvre. Nicole Barbe se retrouve veuve à 27 ans. D'abord hésitante, elle se lance finalement dans la grande aventure du champagne. Elle ne laissera pas son beau-père liquider l'affaire. Épouse et mère de famille qui veille de près à l'éducation de la petite Clémentine, elle devient donc une chef d'entreprise. Elle troque la vie mondaine pour le monde des affaires et fonde la maison Veuve Clicquot-Ponsardin. La voilà devenue l'une des premières femmes d'affaires de l'histoire. Elle fait l'acquisition parcelle par parcelle de 650 acres de vignes, l'équivalent de 260 hectares, parmi les meilleurs crus champenois, à Bouzy, Verzy, Verzenay ou encore à Vise. Sa devise? Une seule qui, vous avez remarqué la littération.
La construction de vos textes est admirable. Oui, on parlait de Chateaubriand tout à l'heure.
Littération, nous n'exagérons rien.
C'est magnifique.
Mais
si, je vous le dis, Stéphane. Vous savez, vous êtes de cette trempe-là.
Comme disait Victor Hugo, je serai Chateaubriand ou rien. Une seule qualité, la toute première. Elle travaille avec acharnement à l'amélioration de celle de ses vins. Comme son défunt mari, la veuve Clicquot crée un réseau d'agents et de représentants à travers toute l'Europe. Mais elle ne fait pas qu'appliquer ce que faisait son prédécesseur. Non, elle innove. En 1810, elle crée le premier millésime en Champagne. Cette date de naissance permet aux amateurs de connaître l'année d'élaboration du vin et de suivre ainsi son vieillissement. Pour le déguster, sans doute au meilleur moment. En 1811, le passage d'une comète fait grand bruit. Pionnière du marketing, elle en profite pour baptiser le fruit de sa récolte du phénomène astronomique. Le vin de la comète est considéré par les historiens comme le premier champagne moderne.
Vous imaginez s'il reste une bouteille de ça quelque part dans le monde,
il
le
en reste.
Prix aux enchères
il
de ce truc-là.
Il en reste.
Il en reste.
Oh bah oui, dans les caves, il doit en rester. On garde toujours au moins une bouteille de chaque. La Russie, qui vient de triompher de l'empire de Napoléon lors de la campagne de France de 1814, est dans sa ligne de mire. Le 6 juin, la veuve Clicquot affrète un bateau hollandais en partance pour Saint-Pétersbourg. S'il ne coule pas malgré les 10 550 bouteilles à son bord, la cargaison, elle, est écoulée lors d'une escale à Königsberg.
Faut du gâchis.
En urgence, à Rouen, on charge 13 000 bouteilles sur un autre bateau. Quand le champagne de la veuve Clicquot arrive à Saint-Pétersbourg, l'interdiction pesant sur les importations de vin français en bouteilles est levée. Le stock est épuisé en moins de deux jours. Le tsar Alexandre Ier en boit des litres, vaincu par les coalisés. Napoléon doit faire pareil de son côté, j'imagine. La légende raconte que l'empereur déchu l'aurait affirmé. « Je ne peux vivre sans champagne. En cas de victoire, je le mérite. En cas de défaite, j'en ai besoin. » Et peut-être même que Winston Churchill lui aussi l'aurait dit.
Ouais.
Bref, converti au champagne, les écrivains russes le mettent à l'honneur, comme Tchekhov, Gogol, Pouchkine, qui le surnomment « le vin béni des dieux » dans son roman « Eugène Onegin ». Si Madame Clicquot abreuve la Russie, comme l'écrit Mérimée au milieu du XIXe siècle, la reine de Reims est célèbre dans le monde entier. On commande « The Widow » à Londres et à New York, « La Viuda » à Madrid et à Buenos Aires et à Paris. On demande simplement une veuve. La veuve Cliquot est une chef d'entreprise qui entreprend. En 1816, elle invente la table de remuage, ancêtre des pupitres. Pour enlever les dépôts et rendre le vin plus clair, elle a l'idée de placer les bouteilles le goulot en bas et de les remuer chaque jour d'un quart de tour. Un procédé qui intègre la méthode champenoise et que copient tous les producteurs de champagne. En 1818, elle n'hésite pas à mélanger un peu de son vin rouge de Bouzy à son champagne, une recette payante. La combinaison vin rouge et champagne donne naissance au premier champagne rosé d'assemblage. Le champagne rosé se faisait jusqu'alors en ajoutant au champagne une préparation à base de baies de sureau. Après la mort de Louis Bonne, son nouvel homme de confiance, Édouard Verlet, devient associé de la maison. Les consommateurs sont ravis. Dans les années 1930, le champagne coule à flot. Mais la veuve Cliquot et Verlet, jusqu'à là à la tête d'un quasi-monopole, voit la concurrence d'un mauvais œil.
Un petit verre de Cliquot, c'est bien un peu de chose.
Ça me fait un petit peu de Jean Gouin.
La vie en rose, ça me rend tout rigolo. Quand je suis morose, j'aime chanter avec Margot. La valse du Cliquot.
La valse du Cliquot, visiblement vous connaissez bien Stéphane, j'ai l'impression que c'est ce qu'on chante chez vous à la fin des soirées.
C'est du Jean
Gouin,
vous savez Jean Gouin qui a dit son nom à ses chansons populaires.
Vous nous racontez donc la veuve Cliquot, son histoire, une des premières femmes d'affaires de l'histoire. Si son champagne met le monde en effervescence, si j'ose dire, elle n'est pas la seule sur le marché.
Non, mais elle est une pionnière et elle est déjà bien implantée. La première concurrence à laquelle la veuve Cliquot doit faire face, c'est celle de la contrefaçon. Les vins qui portent son nom ne proviennent pas toujours de ses caves, alors elle applique à l'intérieur du bouchon une marque distinctive. Selon les années, elle change la couleur des étiquettes. La célèbre étiquette jaune, elle, sera déposée après sa mort en 1877. La veuve Cliquot poursuit même en justice ces charlatans qui imitent son champagne. Un procès contre un contrefacteur lui rapporte 30 000 francs de dédommagement. De quoi accompagner son champagne de kilos de caviar? Pas du tout. La veuve investit dans la construction d'un asile pour vieillards. Elle a le cœur sur la main.
C'est beau.
Avec parfois une idée en tête, quand la ville d'Épernay manque d'eau, elle met à disposition une source dont elle est propriétaire.
J'ai cru qu'elle leur donnait du champagne.
Ce qui permet à ses concurrents de rincer leurs bouteilles. Ainsi, vous ne m'accuserez pas d'être jalouse, s'enorgueillit-elle. La veuve Cliquot meurt en 1866, à 89 ans, dont 61 à la tête de la maison qui porte son nom, après avoir fait la promotion du champagne envers et contre tout. Brave en guerre, crise monétaire, interdit, autre blocus, la maison qui vendait 100 000 bouteilles par an quand elle en a pris les rênes en vend désormais 750 000.
Wow.
Dans la lignée de Cliquot, d'autres femmes dirigent des maisons de champagne, des veuves, en veux-tu, en voilà. Il y a d'abord la veuve Henriot, puis la veuve Pommery. Les grandes dames du champagne ne se font pas concurrence. À madame Cliquot, le marché russe. À madame Henriot, le marché néerlandais. À madame Pommery, le marché anglais. La maison veuve de Vaux compte à elle pas moins de 3 veuves à sa tête.
Mais qu'est-ce qui se passe avec tous les maris, peut-être là, ils ont bu trop de champagne,
en fait. Elle les tue, Mathieu. Elle nous tue. Et la plus connue est peut-être la veuve Bollinger, dont la maison devient le fournisseur officiel de la couronne d'Angleterre. Et continue à l'être, Mathieu. À propos de champagne, Lily Bollinger disait « Je le bois quand je suis heureuse et quand je suis triste. Je le bois parfois quand je suis seule. Quand je ne le suis pas, je le considère comme obligatoire. Dans les autres circonstances, je n'y touche jamais. » Sauf si j'ai soif.
Europe 1, historiquement vôtre.
Elle nous accompagne aujourd'hui durant toute l'émission. On parle champagne avec l'écrivaine Amélie Nothomb, bien sûr.
Oui, Amélie Nothomb, on va être très honnête. Lorsqu'on a souhaité consacrer cette émission au grand nom du champagne, on a tout de suite pensé à vous. Pourtant, vous n'en fabriquez pas.
Pas encore.
Vous n'en commercialisez pas. Vous pourriez, parce que ça marcherait, mais vous en buvez simplement.
J'en bois énormément et les meilleurs.
Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans le champagne? Comment? Autrefois, d'ailleurs, on disait le vin de champagne.
Balzac parle toujours de vin de champagne. C'est vrai que le champagne est un vin. Oui. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans le champagne? C'est simplement que c'est mon premier amour. Je n'avais pas 3 ans quand j'ai bu en cachette ma première coupe de champagne et ça a été un coup de foudre immédiat. Mmh. J'ai toujours su que, avec cet adjuvant, la vie serait merveilleuse. Ça ne s'est jamais démenti. Pourtant, de l'âge de 13 ans à l'âge de 33 ans, je n'ai pas bu une seule goutte de champagne.
Mais
j'ai eu ma traversée du désert, j'ai eu une anorexie épouvantable. Oui. C'était, vous savez, mon âge austère, mon âge terrible. Je vous rassure, ça s'est tout à fait arrangé. Mais simplement pour vous dire que j'ai tout essayé, y compris l'absence de champagne, et qu'au fond, l'absence de champagne
pas.
Ne me réussit pas du tout.
Avec modération, on le rappelle néanmoins. Mmh. Est-ce que vous êtes plutôt, on va parler du contenant, est-ce qu'on est plutôt coupe ou flûte de champagne, ou verre, tout simplement verre à vin? Certains disent que c'est meilleur dans un verre
à vin. Alors, après avoir m'être beaucoup penché sur le problème, le verre à vin. Je ne refuse bien sûr ni la coupe, ni la flûte, mais le verre à vin est vraiment la meilleure façon de boire le champagne. Mmh. Le champagne est un vin, on ne le répétera jamais assez.
Bien sûr, bien sûr. Alors, on dit que boire ou conduire, il faut choisir, je le rappelle, mais boire et écrire, il faut choisir?
Oui, il faut choisir. Malheureusement, il faut choisir. Je peux vous dire, j'ai essayé. La seule chose que l'on peut écrire en état d'ivresse de champagne, c'est la lettre d'amour. La lettre d'amour est un écrit tout à fait à part. Mais en dehors de la lettre d'amour, tout ce que vous tenterez d'écrire, et surtout si vous avez la moindre ambition littéraire, sera une véritable catastrophe.
D'accord. En tout cas, le champagne a toute sa place dans votre œuvre, notamment dans Pétronille, qui est paru en 2014. Dans ce roman, vous allez, tel un chaman, jusqu'à jeûner pour le champagne. C'est un culte, c'est une extase, une mystique en quelque sorte.
C'est une véritable mystique du champagne. J'ai essayé d'autres vins, j'ai essayé d'autres alcools. Il n'y a que le champagne qui soit chez moi si directement vertical. Qu'est-ce que le mysticisme sinon l'art de la verticalité? Eh bien chez moi la verticalité c'est très simple, je bois un ou deux verres de champagne et j'y suis tout de suite.
Alors Amélie, vous nous avez raconté l'anecdote de la première fois que vous avez bu du champagne, c'était de la Boclicaut.
La toute première fois, c'était du Laurent Perrier. Mais quand je suis revenue au champagne à l'âge de 33 ans, c'était de la Veuve Clicquot.
Et c'est là qu'a été le vrai déclic.
C'est là, parce que là j'étais adulte et ça a été vraiment un éblouissement extraordinaire. Je m'étais toujours promis que j'attendrais la fin du monde pour recommencer à boire du champagne. Parce qu'en dehors du champagne, l'alcool ne m'intéresse pas.
Ah oui, c'est intéressant ça. Il n'y a que le champagne. Vous buvez, si on vous sert du vin, vous ne buvez pas de vin.
Si, je le bois, mais je le bois quoi.
Mais sans plaisir.
Voilà.
Sans plaisir.
Non, si, avec plaisir, mais sans amour. Mon amour, c'est le champagne. Je n'ai qu'un amour en matière d'alcool, c'est le champagne.
Ce jour où vous avez goûté de la Veuve Clicquot était un jour particulier, un certain 11 septembre 2001.
Voilà, je m'étais toujours dit que le jour de la fin du monde, je recommencerai à boire. Le 11 septembre 2001, il s'est passé ce que vous savez. Et j'ai pensé, ben voilà, ma vieille, on y est, n'attends plus. Ça tombe bien, tu as 33 ans, c'est parfait. J'ai couru acheter une bouteille de Veuve Clicquot et je l'ai bu et j'ai pensé, oh, quelle merveille d'assister à la fin du monde en buvant de la Veuve Clicquot, quel champagne parfait.
Le problème, c'est que depuis, c'est la fin du monde tous les jours.
C'est tous les jours. Du coup, il faut boire de la Veuve Clicquot tous les jours. C'est ça.
Ce qui m'a toujours amusé, vous connaissez cette histoire, je l'avais un peu racontée quand on avait parlé de sa petite
fille.
Vous
me racontez tellement d'histoires, des flashs que je m'y perds.
Quand j'ai raconté l'histoire de sa petite fille, la duchesse d'Uzès.
Oui.
Parce que son Clémentine avait épousé un Mortemart, et on disait des Mortemarts, ils descendent des croisades et remontent par la cave. Il s'était refait une santé financière, évidemment, avec l'héritage de la Veuve Clicquot. Alors, la Veuve Clicquot, je parle pas de la bouteille, mais de la femme derrière la bouteille, et qui avait un peu de bouteille en matière de direction d'affaires. C'est l'une des premières femmes d'affaires de l'histoire, je l'ai raconté, elle est une pionnière, elle a créé le premier millésime de champagne. Et j'imagine que, voilà, une femme qui aime le champagne, vous vous reconnaissez en elle.
Ah, cette femme, moi je dis total respect. Et si je veux me faire vraiment un très très grand plaisir, je m'offre une grande dame de la Veuve Clicquot. La grande dame, c'est peut-être le meilleur cru de la Veuve Clicquot. C'est une espèce de champagne parfait. La bouteille est déjà un monument. Et quand on le boit, on se dit, voilà ce que devrait être du champagne. C'est le champagne archétypal. C'est absolument merveilleux.
Mais malheureusement, ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Hein. C'est quand même un champagne un petit peu coûteux.
C'est pour les jours de fête.
Oui. Est-ce que vous avez une idée de champagne? Parmi les champagnes les plus accessibles, entre guillemets, même si champagne est
absolument.
Est-ce qu'il y a des bonnes références que vous pourriez...
La meilleure référence, et croyez-moi, c'est un très grand cadeau que je vous offre. Les champagnes Jean Jocelyn.
Jean Jocelyn.
Leur cru moyen, qui s'appelle la cuvée des gens, est à 17 euros la bouteille. Ah. Et c'est une pure merveille.
Mais à 17 euros, c'est un cadeau.
C'est un cadeau que je vous fais, absolument.
Ah oui.
Ah bah je le note.
Parce que mon ruinard est un peu plus ruineux.
Oui. Ah oui, clairement.
Mais j'aime bien le ruinard.
Mais vous parliez tout à l'heure du champagne de Vaud. Le champagne de Vaud est aussi un champagne extrêmement accessible, qu'on trouve à Monoprix à 23 euros la bouteille et qui, franchement, est très bon.
En fait, quand on a besoin d'un renseignement sur le champagne, on appelle la mieux. Vous connaissez les prix.
Je sais tout.
Les meilleurs
sites. Les codes promo.
Vous savez, je ne fais pas semblant de m'intéresser au champagne.
Et on vous a jamais m'avez proposé tout simplement d'avoir votre cuvée.
On me l'a proposé plus d'une fois, mais c'est là que vous allez voir mon côté un petit peu snob. J'avoue que je me montre très difficile.
Ah oui, bah, il faut que ça
ce qu'on a proposé d'appeler cuvée Amélie Nothomb, je suis désolée, ne me paraissait pas de
digne
mon niveau.
De l'être.
Bah oui, tant
qu'à
faire.
Je fais monter les enchères.
Peut-être une grande dame mignonne.
J'adorerais.
C'est classe. Mais c'est vrai que vous le dites en permanence, hein, le champagne, c'est votre premier amour, le plus grand plaisir dans la vie. Encore plus d'ailleurs parce qu'il s'est fait attendre.
C'est ça.
C'est l'absence. J'imagine que quand vous ne buvez pas de champagne, ça vous manque.
Mais oui, mais même ce manque participe de l'amour du champagne. C'est comme en amour, quand on manque de l'être aimé, c'est un lien puissant que ce manque. Eh bien, quand je manque de champagne, j'adore atteindre le stade où tout à coup je me dis « mais je tuerais pour du champagne ». Quelle plus grande déclaration d'amour.
Oui, il faut juste savoir qui.
Il ne manque pas de candidats.
Il ne vous déçoit jamais, par exemple. Parce que je sais, parce que je l'ai vu, vos admirateurs vous apportent des bouteilles de champagne. Mais alors parfois, faute de grive, on mange des merdes. Et donc vous ouvrez une de ces bouteilles et vous pouvez être déçu parce qu'il y a champagne et champagne.
Oui, bien sûr, ça peut se produire. Bon, particulièrement le champagne qui a trop attendu, n'a pas attendu dans les meilleures conditions et qui m'a dérisé. C'est très dommage. C'est pour ça que, voilà, la grande parole que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est allez-y, buvez beaucoup de champagne, ne le laissez pas se madériser, c'est trop dommage.
Beaucoup, mais avec modération. C'est toute la complexité de notre époque et de notre métier, Stéphane. On appelle les gens à boire beaucoup de champagne tout de suite sans attendre, mais avec modération.
Oui, mais en ce moment, on est plus du côté de la dépense, si vous voulez.
Il faut relancer l'économie. Au moins, achetez le champagne. Faites-en ce que vous voulez, mais achetez-le.
C'est vraiment, d'abord, c'est rempli d'oligo-éléments. Ça n'a que des vertus. Ça ne fait absolument pas grossir.
C'est vrai? Parce qu'on dit souvent que le champagne ne fait pas grossir, parce que c'est pas une vérité.
Absolument pas grossir. Ça, vous savez, c'est vrai que ça donne mauvaise haleine si on l'a bu il y a plus d'une heure. La solution est simple, buvez-en continuellement.
Elle a la réponse à toutes les questions, Stéphane. On est heureux d'avoir cette après-midi avec nous.
Alors, restez avec nous, Amélie Nothomb. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Même, vous allez voir Amélie Nothomb, qui est notre invitée exceptionnelle, quand vient le moment de notre chroniqueuse millésimée, dont d'ailleurs vous avez comparé à Mario Dursenard jeune, ce qui est plutôt bien.
Mais tout à fait, même aussi je suis un Nabucodonosor, je crois que
c'est très bien. Elle a bien connu Adrien, mais pour
ça
d'autres raisons.
Ça m'étonne pas, mais c'est vrai que vous avez le visage de Marguerite Dursenard jeune.
Oui. Et bien, elle s'appelle Clémentine Portier, qui n'aime pas Marguerite Yourcenar, immense.
Bah, les amateurs d'histoire en particulier.
Oui, on l'adore. Clémentine Portier-Kaltenbach, qui a toujours quelque chose à nous apprendre, elle est surprenante.
Et oui, parce que voyez-vous, Amélie Nothomb, ici, on voudrait que je parle de sexe quand je voudrais parler
souvent
spiritualité.
Souvent, vous parlez de sexe, il n'y a pas besoin de vous pousser beaucoup.
Alors, j'en parle à demi-mot, généralement, mais aujourd'hui, rien de tel, car je vais vous parler de la sainte ampoule des sacres et vous délivrer la recette du fabuleux nectar que contient ce flacon. Alors, pour qu'il y ait sacre, il faut un matos, en gros. Il faut un certain nombre d'objets incontournables. On les appelle des régalia. Stéphane, il biberonne ça depuis toujours. Il connaît ça par cœur. Alors, il y a des régalia qui ont disparu. Évidemment, la plus évidente, c'est la couronne. On avait la couronne dite de Charlemagne, qui c'était 4 kilos d'or pur. Tout ça disparu, détruit à la Révolution, la plupart du temps. On a le sceptre. Ça, on a conservé le sceptre. Il est au Musée du Louvre, si vous voulez aller le voir.
La galerie d'Apollon.
Et puis, il y avait une épée pour les sacres qu'on appelle joyeuse. Joyeuse, c'était l'épée de Charlemagne. Et l'épée de Charlemagne contenait dans son pommeau la lance du légionnaire romain qui frappe le flanc du Christ pendant la crucifixion. Cette pointe était dans le pommeau de l'épée de Charlemagne. Donc, l'épée des sacres joyeuse depuis Philippe Auguste, qui n'a jamais cessé d'être utilisée pour les sacres, elle est aussi au Louvre. Et pourquoi le roi a-t-il une épée? Parce que le roi est le défenseur de l'Église. Donc, éventuellement, si l'Église est menacée, à dada sur son petit cheval, il va défendre la foi catholique. Bon, alors, mais j'en viens, évidemment, dans tous ces objets divers, il y a des objets liturgiques, il y a le calice de Saint-Rémy, et puis il y a la sainte ampoule, le flacon qu'adore préféré de Stéphane Bern. Pourquoi est-ce qu'on dit la sainte ampoule? Parce que ampoule vient du latin ampulla, qui lui-même est de la même famille que le mot amphore, donc flacon ou fiole, tout ça c'est pareil. Alors, selon la légende racontée par l'archevêque Inkmar en 876, donc en gros, qu'est-ce qui se passe? On va baptiser Clovis, il y a un diacre qui doit apporter un flacon d'huile sainte, il y a tellement de gens, il y a une telle affluence que le diacre ne peut pas accéder jusqu'au baptistère. Et c'est là que surgit tout d'un coup une colombe qui, portant dans sa bouche une sainte ampoule, apporte le précieux liquide qui va permettre d'oindre Clovis et d'en faire un roi très chrétien. Hein. Alors, la tradition, c'est que la sainte ampoule qui se trouve à Reims aujourd'hui encore contient quelques gouttes de cette huile qui a servi à baptiser Clovis. Si vous voulez, c'est comme le principe de la trière grecque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste d'authentique et d'origine? Eh ben, il y a une goutte infinitésimale de l'huile contenue dans la sainte ampoule qui a servi pour le baptême de Clovis. Alors. Mais j'en viens à la recette du Saint-Crème, parce qu'évidemment, vous attendez ça avec impatience. Alors, si vous voulez confectionner cette onction qu'on préparait autrefois chaque jeudi saint, bon, il vous faut de l'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive, là, les garçons, à votre avis?
L'huile d'olive.
Pourquoi c'est pour de l'huile d'olive?
Pour que ça tienne sur la distance.
Mais pas du tout.
Comment
ça? C'est incroyable. Mais l'huile d'olive à cause du jardin des oliviers. Où le Christ est arrêté la veille de sa crucifixion.
J'ai trop abusé de ce petit champagne.
L'huile d'olive, ça, vous allez pouvoir trouver facilement. Ensuite, vous mélangez votre huile d'olive avec du baume de Galaad ou de la Mecque, un fluide jaune d'or, tiré de la résine d'un arbre que l'on trouve en Judée et en Palestine. Alors, moi, là, c'est moins facile à trouver de l'huile d'olive. Enfin, allez donc,
il y a des importateurs.
Non. Alors, vous mettez votre baume de Galaad, ensuite de la cannelle, de l'essence de rose et de l'encens blanc, qui vont donner le parfum très suave et quasi irréel du Saint-Crème. Et lors des sacs, c'était très beau, parce que contenu de cette ampoule, vous connaissez, vous savez comment on procédait, donc on en mettait sur la tête,
sur les parties,
la poitrine, les épaules et les coudes du monarque. Et pendant ce temps-là, on récitait une formule magique qui est la même depuis Pépin le Bref, c'est-à-dire depuis 751. C'est
que
pas
vous
beau,
allez
ça
nous donner.
Je ne la connais pas parce que justement,
comment
c'est une formule très magique. Non, je la connais
pas. Vous ne connaissez pas la formule magique?
Allez-y, vous la connaissez.
Stéphane, allez-y, on vous
moi,
écoute.
Je connaissais Supercalifragilix, non? C'est pas ça.
C'est pas brûle ce que tu adorais, adorais ce que tu
Ah non, ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce que Saint-Rémy a dit à Clovis, ça.
Pardon, mais vous nous donnez la recette pour la refaire chez nous. Mais ça sert à quoi?
Une fois que j'aurais refait.
Le confinement était long pour tout le monde, on cherche des idées,
à une époque où tout le monde utilise beaucoup d'huiles essentielles, un petit peu de baume de galade.
Mes loisirs créatifs, j'ai refait le Saint-Crème des rois de France.
Mais vous faites votre Saint-Crème, bien sûr.
Mais je veux mon Saint-Crème.
Est-ce que c'est bon anti-rides?
Ah, bien sûr. Un bon anti-rides. Ah, bien sûr. L'essence de rose, bien sûr, c'est très très bon pour la peau. Alors, cette sainte ampoule, elle a été piétinée en 1793 officiellement.
Vous avez dit qu'elle était à Reims encore.
Par les révolutionnaires. Oui, elle est toujours à Reims parce qu'on a récupéré des petits bouts.
Dans le palais du Thau, il y a notamment tous les trésors. Il y a le calice des rois de France et il y a aussi la sainte ampoule. Dans le musée du palais du Thau, vous avez tous les objets liturgiques.
J'ai été ordonné grand moufti de l'ordre du champagne au palais du Thau. Ça m'a fait.
C'est bien, c'est cultiver l'art du paradoxe. Enfin, si vous voulez, donc cette sainte ampoule, la nouvelle qui date de 1825 et qui contient des gouttes de l'huile originelle qui a baptisé Clovis, elle est donc toujours à Reims à l'heure où nous parlons. Et comme vous le voyez, même si les belles bouteilles de champagne portent des noms ronflants de patriarches de la Bible, avouez que le baume de Galaad et l'essence de rose, ça grise peut-être moins qu'un Jéroboam, mais ça fait voyager aussi loin.
Magnifique.
Bravo
Clément.
Bravo, là, vraiment.
Bravo, Stéphane, applaudit avec ses
petites mains. Je devrais parler plus souvent de la sainte ampoule, parce que là, je sens que
Stéphane devrait plus souvent boire du champagne, parce que là, on est même pas à mi-chemin de l'émission, et il est déjà pompette. Je tiens le signal à nos auditeurs. Il chancelle, il a essayé de lancer quelque chose dans la poubelle, c'est tombé à côté. Il est dans un sale état. Merci
beaucoup.
En tout cas,
merci Clémentine. Je crains le pire pour le quiz.
Oh, oui. Clémentine, vous restez avec nous. Le quiz arrive et aujourd'hui, ce ne sera pas la peine de crier au scandale.
Mais c'est inique. C'est un scandale.
Comme vous le faites un jour sur deux, car aujourd'hui, notre quiz se déroulera sous contrôle d'une main bien plus innocente que la mienne, celle de notre invitée Amélie Nothomb, qui pourrait éventuellement vous aider si, comme souvent, vous pataugez dans la semoule.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Stupeur et tremblement, c'est le titre d'un livre culte de notre invitée Amélie Nothomb, mais c'est aussi ce que vivent chaque après-midi Stéphane Bern et Clémentine Portier-Kaltenbach au moment de notre quiz historique. Stupeur de la défaite, souvent pour Stéphane. Tremblement à l'idée de se voir voler la victoire par les tricheries de Stéphane pour Clémentine. Remettons les compteurs à zéro, jouant à Bern to be alive. C'est notre quiz, ma chère Amélie. Bern to be alive, et vous pouvez intervenir, vous pouvez les aider. Vous avez droit à l'appel à un ami qui est juste là, en la personne d'Amélie Nothomb. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Essayez de vous ressaisir, que là, je vous sens un peu chancelant. Lors du sacre d'Elisabeth II en 1952, voilà une question pour vous.
53, déjà.
Alors déjà.
Posez. Elle est montée sur le trône en 52, mais elle a été sacrée en 53.
Au débeuté, vous êtes formidable. formidable.
C'est un quiz qui démarre bien. Un point en moins pour moi, mais je ne joue pas. Lors du sacre d'Elisabeth II en 1953, chacun le sait, Stéphane, le rouge à lèvres qu'elle portait avait été bleu. Spécialement créé pour l'occasion, et on peut toujours en acheter aujourd'hui dans toutes les boutiques spécialisées à Londres, la marque Rimmel London. Vrai ou faux?
Alors, ça, pardon, mais je ne sais pas si on peut l'acheter. Ce que je sais, c'est qu'on a créé un rouge à lèvres bleu pour la reine Elisabeth ce jour-là, parce qu'il fallait qu'elle puisse être vue à la télévision.
Et donc la télévision
était en noir et blanc, donc on lui mettait un rouge à lèvres bleu, et on a pu le voir un peu rouge, en tout cas, on le voyait pas rouge, puis c'était la télé en noir et blanc. Mais pour que ça apparaisse, il fallait qu'il y ait un rouge à lèvres bleu.
Pour les invités, ça devait faire un effet étrange de voir la reine.
Elle devait avoir l'air d'une reine gothique, non?
Elle était très loin.
Écoutez, à Tokyo, en 1989, à Harajuku, dans les milieux branchés, le rouge à lèvres bleu, c'est ce qui se vendait le mieux. Je le sais, j'en faisais partie.
Ah oui. Alors écoutez, vous avez peut-être un élément de réponse. Parce que là, vous nous avez apporté une tranche d'histoire magnifique, mais la réponse à la question,
sauf si vous avez rajouté un piège en disant est-ce qu'on peut toujours l'acheter?
Oui.
Ça, moi, pardon.
Question que je pose, vrai ou faux?
En tout cas, les auditeurs ont bien compris que oui, je savais. Je savais qu'elle avait un rouge à lèvres bleu, donc je dis oui.
Vous avez perdu.
Toute cette connaissance, ce puits de culture, pour aboutir à une mauvaise réponse. Oui. Ça, c'est vraiment l'essence de notre quiz, Stéphane. C'est faux. La marque a été créée. C'était The Balmoral Lipstick, mais il n'est plus en vente. Tant pis pour vous. Question numéro 2.
Ça, c'est notre vie, Amélie.
C'est pas juste.
Je pense que le jury qui est derrière cette vitre sans teint, et il voit bien que tout ça, c'est...
Mais on n'est pas à la télé, il n'y a pas de jury. Il y a juste nous, Stéphane, et un réalisateur.
Mais on m'a menti.
Alors, on vous a menti sur le chat. Question numéro 2. Clémentine, c'est pour vous. 1927. Là, j'en suis sûr. C'est la naissance d'un duo comique d'une redoutable efficacité, Laurel et Hardy. Beaucoup moins connu, un acteur américain d'origine écossaise va jouer dans une trentaine de films avec eux. Il sera à l'origine du Do, d'Homer Simpson. Écoutons le Do.
Do !
Vrai ou faux ? Marguerite Yourcenar.
Le dos de Homer Simpson,
qui est historique.
Oui, parce que cette question est tellement dépourvue d'intérêt si elle est fausse que vraiment je dis oui.
Vous avez raison.
James Finlayson, de 1927 à 1940, il fait ce son. Quand on demande à l'acteur qui double Homer Simpson de faire un grognement, il fera un do inspiré de James Finlayson, mais beaucoup plus court.
Je suis vraiment contente d'être ici.
C'est une question importante pour le jeune public. Je vous rappelle qu'on essaye de reconquérir les jeunes sur Europe 1. Vous n'avez pas l'air d'accord, Marguerite Yourcenar.
C'est sûr, avec le rouge à lèvres de l'Angleterre, là.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane.
Oui.
Le premier empereur de Chine, Qun Shi Huang.
Qun Shi Huang, je l'ai connu.
Celui à qui on doit l'extraordinaire armée de 8000 soldats en terre cuite. Et celui qui a donné également l'ordre de bâtir la Grande Muraille. Pas n'importe qui. Eh bien, on a retrouvé ses écrits sur des lamelles de bois où il demandait à ses subordonnés de trouver un remède contre la chute des cheveux. Vrai ou faux? C'est vrai, absolument.
C'est absolument, et on lui a dit que le propétia était formidable.
Que le quoi?
Le propétia.
C'est quoi le propétia?
C'est un truc pour pas perdre ses cheveux, visiblement Stéphane connaît.
Moi je crois qu'il avait fait travailler son médecin sur un remède, sur l'élixir de jouvence et un remède d'immortalité.
Découvrons le verdict pour la réponse de Stéphane.
Vous avez encore perdu.
Il a encore perdu. Et pire que ça, Amélie Nothomb, c'est Clémentine qui bénéficie d'un point bonus puisqu'elle apporte la bonne réponse. C'était faux. Il demandait une potion d'immortalité.
Mais c'est pareil.
Il est mort à 49 ans. Ça n'a pas fonctionné. C'est la dernière question, puisque je pense que Clémentine va l'emporter. Question pour vous, Clémentine.
Vous avez quoi, je vais vous dire, Mathieu? Maintenant, on a envie de répondre n'importe quoi.
Ça, c'est parce que plus de champagne pour Stéphane. On ne resserre pas Stéphane, qui perd un petit peu les nerfs dans ce quiz. Avril 1922, Bobby Lapointe naissait.
Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait le
glace
de citron. À 20 ans, il est envoyé en Autriche pour le service du travail obligatoire, le STO. Il s'évade et se cache. Pour ne pas qu'on le retrouve, il change de nom. Robert Foulcan. Vrai ou faux?
J'étais tellement marrant, Bobby Lapointe. Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle.
C'est fou comme là, vous ne ressemblez plus du tout à Marguerite Yourcenar. Là, tout à coup, on a perdu.
Vous avez raison avec votre quiz, on capte des jeunes. Les primaires qui sortent de l'école, là, ils sont branchés.
Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. Je vous fiche mon billet qu'en primaire, on adore ça. Je dis oui.
Vous avez gagné.
venaison de la graine, Stéphane.
C'est un triomphe.
Un triomphe pour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Vous avez vu, les questions ne sont pas les mêmes.
Comment ça, les questions ne sont pas les mêmes? Ah non, c'est différentes questions, effectivement. Oui. Chacun a une question et elle diffère, effectivement. Okay, Stéphane, ne cherchez pas.
Non, je ne cherche pas.
Ne cherchez pas d'excuses. Vous avez complètement perdu.
Merci.
Et on peut rappeler votre score. Vous avez, je crois, moins 1, parce qu'un point, vous avez été même retiré. C'est-à-dire que vous perdez, 3 à moins 1. C'est du jamais vu dans toute l'histoire des quiz.
Est-ce que ça rattrape quelque chose si j'épouse Stéphane?
Oui. Ah, voilà.
Il vous faudra du
sang
crème.
Ma mère oui. rêve que j'épouse Stéphane.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors j'ai envie de savoir un peu plus là-dessus. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une grande complicité entre vous. En antenne, on a pu le découvrir tout à l'heure dans les couloirs d'Europe 1.
Ma mère est amoureuse de Stéphane Bern et ne l'appelle pas autrement que Bernard Stern.
Ça lui va bien.
Et ma mère a beaucoup d'admiration pour moi parce qu'elle sait que je fréquente régulièrement à Paris Stéphane Bern et elle rêve
elle
que je l'épouse. Donc s'il vous plaît, ne décevons pas ma maman.
Non, on ne va pas la décevoir. On va faire tout ce qu'elle veut.
Voilà.
Je pourrais être témoin?
Oui, si vous voulez.
Je ferai un petit discours.
Oui.
Moi, enfant de cœur, dit Clémentine, qui part déjà vers d'autres aventures.
Promet. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous le savez, chers auditeurs, Stéphane, quoique encore alerte et le poil dru, a fêté le mois dernier ses 70 printemps. Une très belle soirée qui a réuni les artistes les plus en vue chez les jeunes, André Verschuren, Marcel Amon, Ginette Reynaud. On a eu un mal fou à les réunir, surtout que certains étaient morts. Et je me disais, quel cadeau offrir pour marquer le coup? D'abord, j'ai pensé au dernier roman d'Amélie Nothomb, Les Aérostats, qui est excellent. Et puis après réflexion, je me suis dit, allez, on n'a pas 70 ans tous les jours, je vais lui offrir Amélie Nothomb, le livre et Amélie Nothomb, tout court. Stéphane, Amélie Nothomb est notre invité.
Ah oui, alors là j'en suis encore tout retourné. Hein. Vous savez que j'ai une passion pour Amélie Nothomb.
Et que vous n'avez pas 70 ans.
Et ça c'est vrai, mais j'adore évidemment la personne qu'elle est et son œuvre. Amélie, votre dernier roman, Les Aérostats, est donc disponible. C'est votre 29e roman, 29e publié. Parce que à mon avis, si on fouille dans vos tiroirs, il y en a au moins une cinquantaine en plus.
Je suis en train d'écrire le 100e.
Ah oui, c'est ça. Oui. 29 publiés, 100 écrits.
Il n'y aura jamais de panne d'inspiration qui fera qu'une année vous publierez un de ces romans qui est dans les tiroirs?
Alors, je ne peux pas préjuger de l'avenir, mais je peux vous dire que j'ai déjà rédigé mon testament pour que ceux que je n'ai pas publiés jusqu'ici restent non publiés.
Mais ça, c'est une vraie question éthique. Vous estimez qu'ils ne sont pas au niveau, mais peut-être qu'ils privent les lecteurs de quelque chose qui leur aurait plu.
Et je vais vous dire, c'est même pas ça le problème. Je ne sais pas s'ils sont au niveau ou pas. C'est que je n'en ai pas envie. Excusez-moi de trouver que mon désir est important.
Qui décidez?
Et donc, sauf que vous voulez faire un cadeau, vous savez, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui a besoin d'argent, vous dites, je lui lègue un manuscrit.
Est-ce que c'est un appel secret? Non,
je crois que ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble.
Je pensais à d'autres.
Alors Amélie, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est aussi parce que vous faites partie de nos trois personnages historiques du jour. Leur point commun, l'amour des fines bulles.
Parmi ces dingues de champagne, on a évoqué la veuve Clicquot. Je vais maintenant vous raconter le destin du moine Dom Pérignon. Et si je ne suis pas trop pompette, je serai peut-être en état d'écouter votre portrait de notre invité Mathieu. Un portrait à 99% vrai comme toujours, sauf que là, attention, vous êtes à portée de gifle.
Oui, c'est pourquoi mon portrait est à 100% vrai aujourd'hui. Exceptionnellement, je ne prendrai aucun risque. Mais avant ça, accueillons nos chroniqueurs. L'un d'entre eux ne vous est pas inconnu, chère Amélie. Vous connaissez son rire. Vous connaissez surtout sa descente. Olivier Pouls, notre expert gastronomique et breuvage divers et variés.
Je ne sais pas si c'est la meilleure chose que j'ai faite que de vous apporter du champagne depuis tout à l'heure.
Oui.
Que vous dégustez tranquillement. Est-ce que vous allez arriver à terminer l'émission?
Très franchement, moi...
Enfin,
moi
on a déjà terminé la bouteille. À niveau de l'émission.
Non, Stéphane. Avec modération.
Souvenez-vous,
notre devise. Bon, tout à fait.
Avec ce champagne, pourquoi pas quelques biscuits de Reims?
Oui, pour éponger.
Pour éponger, il est urgent que je vous les apporte d'ailleurs.
Et puis avec nous, David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines d'un objet cher aussi à Amélie Nothomb, peut-être moins que le champagne, mais tout aussi utile quand on écrit.
Oui, ben le stylo B, oui. C'est on ne peut pas écrire avec du champagne, donc c'est ça, oui.
Mais on peut écrire à la main. Vous écrivez comment aujourd'hui?
À l'ordinateur.
Ah non, à la main.
Et uniquement au stylo B.
Ah ben ça tombe bien.
Oui. T'as eu chaud mon coco. Ah,
vous pensez que c'était hasard?
Ah non, vous avez bossé votre truc. Oui. Vous avez bossé, David. Et enfin, le mot de la fin évidemment reviendra à Stéphane Bern.
On va parler de la pomme d'Adam.
La pomme d'Adam.
Effectivement.
La pomme d'Adam. D'où ça vient? Pourquoi? Comment? Vous le saurez avec le fin mot de l'histoire de Stéphane Bern. Mais tout de suite, découvrons l'histoire de notre deuxième passionné de champagne cet après-midi. Et si comme Stéphane vous pouvez dépenser sans compter, son nom ne vous est pas étranger. Dom Pérignon.
16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Si Jésus transformait l'eau en vin, Dom Pérignon a lui transformé le vin en champagne.
Ah oui.
Si l'on peut douter du miracle du premier, le second relève bien de la légende. Depuis 2 siècles, on raconte que Dom Pérignon, moine bénédictin du XVIIe siècle, a fait mousser les vins de champagne. Oui, Dom Pérignon aurait inventé le champagne, disons la méthode champenoise. Allons bon, une pétillante histoire que racontent ceux à qui les bulles sont montées à la tête entre deux coupes. Faisons donc maintenant éclater la vérité. L'histoire se situe à l'abbaye de Hautvillers en Champagne. C'est pas une abbaye comme les autres, elle a donné 9 archevêques à Reims. Vous savez, ceux qui sacrent les rois de France quand même. Et elle abrite une relique exceptionnelle, le corps de Sainte Hélène, la mère de Constantin, le premier empereur chrétien. Lieu de pèlerinage, l'abbaye brasse des fonds de plus en plus importants. Elle les investit en biens fonciers, des vignes surtout. Quand Dom Pérignon arrive à Hautvillers en 1668, l'abbaye compte 10 hectares de vignobles et une immense variété de cépages. Né à Saint-Menoux, dans une riche famille de magistrats champenois, en 1638, Pierre Pérignon fait ses études chez les jésuites, puis chez les bénédictins de l'abbaye de Saint-Van-de-Verdun. Il prend le titre de don lorsqu'il prononce ses vœux à l'âge de 20 ans, avant d'être ordonné prêtre 10 ans plus tard. À l'abbaye de Hautvillers, Dom Pérignon est nommé célérier, ce qui fait de lui l'homme d'affaires de la communauté. Il gère les questions administratives et financières et s'occupe de l'exploitation du domaine, et donc, vous l'avez compris Mathieu, du vignoble. Il entreprend de grands travaux de rénovation et à partir de 1673, il fait creuser de vastes caves et construire de nouveaux celliers. Ce qui l'intéresse surtout, c'est la qualité du vin. Dom Pérignon a 30 ans et toutes ses dents, mais sa vue lui fait défaut. Il développe alors d'autres facultés, son nez et son palais. Il connaît par cœur les grappes des différentes parcelles du domaine, qui est pourtant le plus vaste de toute la Champagne. Quand il déguste à l'aveugle, il reconnaît chaque cépage sans jamais se tromper. Pour analyser la maturité du raisin, il laisse reposer des grappes la nuit sur sa fenêtre, puis les déguste le lendemain matin. Dom Pérignon met en œuvre des méthodes exigeantes et perfectionne toutes les étapes de la viticulture, la plantation, la sélection des cépages, la cueillette des raisins, le pressurage et la vinification. En cette fin du XVIIe siècle, on produit en Champagne du vin rouge avec du raisin rouge et du vin blanc avec du raisin blanc.
C'est logique.
C'est logique. Innovation œnologique majeure, Dom Pérignon fait un vin blanc avec des raisins noirs, comme le Morillon ou le Pinot. Le résultat, un vin gris est excellent. Et c'est à partir de ce vin qu'on fera du champagne. Et qui dit champagne dit bulles. Des bulles qui ont toujours existé. Il faut rendre à la nature ce qui lui appartient. L'homme n'a pas tout inventé. Les vins ont une tendance naturelle à l'effervescence. Elle est évoquée dans la Bible, dans des textes égyptiens, grecs ou romains. Ce pétillement qu'on aime tant est provoqué par le processus de fermentation. Le sucre contenu dans la pulpe des raisins se transforme en alcool et en gaz carbonique sous l'action des levures présentes sur la pellicule des raisins. Quand la fermentation, stoppée par un coup de froid à l'automne, reprend au printemps, le vin devient pétillant. Mais ça, c'est Pasteur qui le découvrira bien plus tard. Et Dom Pérignon ne sera donc plus là pour le voir. Après avoir occupé 47 ans le poste de cellerier de l'abbaye de Hautvillers, Dom Pérignon meurt en 1715. Il était déjà né la même année que le roi Soleil. Voilà qu'il meurt aussi la même année que lui. Dom Pérignon meurt, le 18e siècle s'ouvre, les bouteilles de champagne aussi. Après avoir fait le plaisir des dandys anglais, la boisson se répand dans la haute société. Les vignerons champenois répondent alors à la demande des consommateurs et produisent de plus en plus de vins pétillants. Bientôt, le champagne redore l'image du royaume de France. Comme l'écrit Voltaire, « Chloris et Glée me versent de leurs mains d'un vin d'Aï, dont la mousse pressée de la bouteille avec force est lancée, comme un éclair fait voler son bouchon. Il part, on rit, il frappe le plafond de ce vin frais, l'écume pétillante de nos Français est l'image brillante. » Une image brillante, c'est ce que Dom Pérignon apporte au champagne, mais tout cela n'est que légende. Tout est parti de Dom Jean-Baptiste Grossard, dernier cellerier de l'abbaye d'Hautvillers. En 1821, il écrit dans une lettre au maire adjoint d'Ailly. C'est le fameux Dom Pérignon qui a trouvé le secret de faire du vin blanc mousseux et non mousseux. À partir de là, la légende ne fait qu'enfler. Pour réagir contre la crise économique des années 30, vignerons et négociants champenois relancent le culte de Dom Pérignon, pour le plus grand plaisir de la maison Mouette et Chandon, propriétaire des vignes de l'abbaye d'Hautvillers. Elle commercialise au même moment sa célèbre cuvée, Dom Pérignon. Le champagne est l'invention collective et anonyme de plusieurs générations de champenois. C'est au fil des siècles, par petites touches successives, que fut élaborée la méthode champenoise. Une méthode innovante et complexe, appliquée à une boisson que n'a pas inventée Dom Pérignon. Gardons les idées claires. Finalement, comme le disait un historien britannique, le champagne s'est inventé lui-même.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous sommes toujours avec Amélie Nothon qui applaudit Stéphane Bern après ce magnifique récit. Amélie, vous nous accompagnez cet après-midi. Amélie Nothon, qui est champenoise de l'année 2015. C'est un vrai prix que vous avez reçu et c'est comme le Goncourt. C'est le genre de prix auquel on ne s'attend pas mais qu'on espère en secret.
C'est beaucoup mieux que le Goncourt.
Beaucoup mieux.
Si vous allez à l'autre bout du monde et que vous dites que vous avez gagné le prix Goncourt, tout le monde s'en fout. Mais si vous allez à l'autre bout du monde et que vous dites... Vous savez, je suis champenoise de l'année, c'est-à-dire ambassadrice mondiale du champagne pour l'année 2015. Les gens vous regardent avec considération.
Tout de suite, c'est autre chose. Si vous aviez pu rencontrer en vrai ce Dom Pérignon dont nous a parlé Stéphane, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Vous auriez aimé discuter avec lui?
Et vous savez que je me suis recueillie sur sa tombe à Auvillé. C'est mon saint préféré. Voilà, je n'ai pas exactement de sainte patronne, parce que la question de sainte Amélie est beaucoup trop compliquée. Voilà, Dom Pérignon, c'est mon saint préféré. C'est le saint auquel je dois le plus. Je me voue à lui.
Vous, c'est Saint-Tropez, non?
Mais ne dévoilez pas tout de ma vie, oui. Stéphane.
Mais cela dit, c'est un formidable héros de roman. C'est vrai que cette histoire est romanesque.
Mais oui, cet aveugle dont le goût et l'odorat sont hypertrophiés, c'est un héros zen. Il y aura un roman de François Cheng à écrire sur Dom Pérignon. C'est magnifique.
Vous avez déjà écrit sur le rapport à la soif du Christ dans le précédent roman, qui était excellent aussi. Il y aurait peut-être un roman à écrire sur Dom Pérignon.
Je vais vivre encore un certain nombre d'années parce qu'il faut absolument que je consacre un roman à Dom Pérignon.
Ah, voilà. Bah, au moins...
Non, mais ce qui est incroyable, c'est comment une légende est devenue un fait historique.
C'est vrai.
Comment plutôt, aujourd'hui, tout le monde tient pour acquis le fait que la méthode champenoise, le pétillement du champagne, tout ça est dû à Dom Pérignon qui a à peine existé. Enfin, c'était un simple cellerier de l'abbaye de Auvillé.
Il faut dire que c'est un tel phénomène. Il faut bien vous dire que, par nature, le champagne a tendance à être pétillant et qu'il faut beaucoup d'efforts pour empêcher le vin d'être pétillant. Donc pendant des années, pendant des siècles, on s'est appliqué à créer ce qu'on appelle du vin tranquille. Et voici que suite à une espèce d'aberration, peut-être même d'erreur, on n'a pas pu empêcher un vin de ne pas être tranquille, à savoir de devenir le champagne et de devenir cette boisson curieusement emblématique qui n'a rien à voir avec les autres vins à bulles. Il existe encore aujourd'hui culturellement des vins à bulles qui sont reconnus. Aucun n'équivaut au champagne. Le champagne est vraiment un miracle. Il a une identité très difficile à cerner, d'autant plus difficile que quand on a du champagne en bouche, on sait tout de suite que c'est du champagne. Si on vous sert un autre vin à bulles, vous savez tout de suite que ce n'est pas du champagne.
Oui. Dom Pérignon, je parle de la cuvée, non pas le personnage, mais la cuvée Dom Pérignon, qu'est-ce qu'elle a de particulier quand vous l'avez en bouche?
Dom Pérignon est vraiment un champagne exceptionnel, parce qu'il a toutes les qualités pour être complètement raté.
C'est-à-dire
qu'il est exceptionnellement fruité. Je ne connais pas de champagne qui ait autant le goût de fruits que le Dom Pérignon, ce qui est un défaut. Quand vous goûtez un champagne qui a vraiment le goût de fruits, vous dites « mais qu'est-ce que c'est que ce champagne absolument vulgaire, on a dû se tromper et tout ». Et dans le cas du Dom Pérignon, ce goût de fruits est une qualité exceptionnelle. Donc pour moi, le Dom Pérignon résout la question du jardin des origines. C'est-à-dire que le fruit du péché, miraculeusement, est de bon goût dans le Dom Pérignon. Particulièrement dans celui qui est mon champagne préféré sur Terre, à savoir le Dom Pérignon 2003. Dom Pérignon 2003 est un champagne absolument exceptionnel parce que en 2003, il y a eu cette terrible canicule.
Ah oui.
Par la suite, il y en a eu beaucoup d'autres, mais par la suite, on s'était un petit peu habitué. En 2003, il y a eu cette canicule à laquelle la vigne n'était vraiment pas habituée. Et dans les vignes de Dom Pérignon, on a vraiment cru que la vigne allait mourir. Et ça a créé un raisin d'exception, un raisin qui était comme le testament du champagne. C'est pour ça que le Dom Pérignon 2003 a un goût de testament qui n'a rien à voir avec aucun autre. Je veux être enterré avec une bouteille de Dom Pérignon 2003.
Après l'avoir bu,
je veux croire que je trouverai un moyen de le boire dans mon voyage dans l'autre monde.
Ah oui, c'est pas mal ça. Il a servi aussi, vous savez, au mariage de Charles et Diana. Oui. Il l'avait choisi pour leur... L'histoire ne dit pas si c'était un bon choix. Je parle du champagne, évidemment, parce que après, on a son avis. Mais c'est incroyable comme le champagne est associé au mariage, à la fête, etc.
Et justement, en ces temps où il n'y a pas eu de fête, par définition, enfin, logiquement, comment vous l'avez vécu, vous, aussi les bistrots fermés, là où, enfin, tous ces lieux où on fait la fête et on boit le champagne.
Mais quel désespoir! Mais quelle sinistre année! Heureusement que chez moi, j'ai de très bonnes réserves, mais même les réserves, ça ne suffit pas parce que même si chez moi il y a de très bons champagnes, tout le plaisir, et c'est aussi pour ça que je vis à Paris, c'est d'aller dans n'importe quel endroit et de dire « donnez-moi votre champagne ». Paris est une ville incroyable parce que où que vous alliez, même dans des bistrots de peu de prestige, on vous sert de très honnête champagne et c'est tout le bonheur de la vie de décider à n'importe quelle seconde que vous allez boire du champagne et même du très bon.
On est obligé d'aller chez vous maintenant pour être sûr d'avoir du très bon champagne. En tout cas, merci beaucoup Amélie Nothon. Restez avec nous pour parler de champagne. C'est le thème du jour.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnalités qui ont marqué l'histoire du champagne ou qui ont une passion pour les fines bulles. Après, la veuve Cliquot et Dom Pérignon, Mathieu, c'est avec beaucoup d'émotion que vous apprêtez à brosser le portrait d'une autre grande amatrice de champagne, qui est notre invitée ici présente, Amélie Nothon. Émotion, 42 ans de carrière radiophonique, c'est quasiment la première fois que vous faites son portrait.
Oui, quasiment Stéphane, quasiment, puisque c'est seulement le 12e portrait consécutif d'Amélie Nothon que je vous livre. Elle connaît par cœur maintenant le cheminement classique de mon portrait, qui tourne toujours grosso modo autour de trois axes. 1. Le coup de foudre imaginaire survenu soi-disant entre nous au bar en face d'Europe 1 avant l'émission. 2. Sa prise de conscience que finalement le mariage auquel elle était auparavant réfractaire n'est pas une si mauvaise idée, surtout si c'est avec moi. Séquence à l'issue de laquelle je demande à Amélie de partager sa vie et ses droits d'auteur avec moi. Elle répond...
Ah oui.
Enfin, 3, lune de miel à Fukushima. Illustrée par une musique chinoise, mais ça, Amélie me pardonne, car si elle-même, ce n'est pas pour mes compétences en géographie.
Ni
mais
en musique.
Reprenons donc les bonnes habitudes. Ah, bon, aujourd'hui, Covid oblige, hein, ce n'est pas au bar d'en face d'Europe 1 que notre coup de foudre a eu lieu, Amélie, mais sur le parking. Amélie sortait de sa Bentley, j'ai baissé ma vitre. Oui, j'ai pas les vitres électriques sur la Punto, c'était en option. J'ai attiré votre attention d'un coup de klaxon aussi élégant que discret. Nos regards se sont croisés, et pour la 12e fois, malgré les masques, le coup de foudre a eu lieu. Vous n'hésitez pas à affirmer, Amélie, que le champagne est votre premier amour. J'ai la prétention de croire que je serai le dernier. Évidemment, par égard pour les auditeurs fidèles qui se sont déjà farcis mes 11 précédents portraits de vous, on va accélérer sur certains passages de votre biographie. Pour tout ce qui est votre enfance à Osaka, votre papa consul et vous qui finissez les coupes de champagne des invités plutôt que les Ferrero Rocher, je renvoie à ma chronique 3 du 27 novembre 2012. Pour toute la partie staccanovisme, méthode de travail délirante à base de 9 heures d'écriture par jour, je renvoie à la chronique 7 du 16 octobre 2015. Vous la trouverez facilement en tapant les mots-clés « Encore un triomphe pour Mathieu Noël, le nouveau Gad Elmaleh ». En revanche, les âmes sensibles et surtout la personne qui partage éventuellement votre vie, Amélie, éviteront soigneusement la chronique 9, hein, la plus licencieuse, puisqu'après une nuit d'ivresse dans un love hotel de Sapporo, vous accouchiez 9 mois plus tard de notre enfant, Akira Nothon Noël. Voilà, j'avais d'évidence contrevenu à une de vos règles sacrées, Amélie, qui concerne normalement les cocktails au champagne, je vous cite, « savoir se retirer au bon moment ». Et c'est vrai, contrairement à Stéphane qui lui ne sait pas dire stop au serveur qui lui propose un 15e refil de Dompé et qui ressort donc de chaque cocktail la France Télévisions dans un état aussi déplorable, vous l'avez entendu, que les monuments qu'il s'échine à sauver.
In the Navy.
Vous savez toujours vous arrêter à temps. En 2014, vous serez même retiré de votre propre chambre d'hôtel où vous receviez des amis pour aller vous baigner seul, totalement rôti, dans le lac d'Annecy. Je n'invente pas, vous l'avez raconté dans Femme Actuelle, c'est vrai ça?
Qu'est-ce que c'était que cette soirée?
C'est la pire cuite de toute ma vie.
Dans le lac d'Annecy?
C'est-à-dire que j'avais provoqué en duel... comment il s'appelle? Yann...
Yann Moix?
Non. Yann Kefelec. Voilà.
Vous avez provoqué Yann
Kefelec? Je l'avais provoqué en duel. J'étais déjà ronde quand je suis arrivée. Et je l'ai provoqué en duel. Évidemment, il a gagné. Alors, on m'a raccompagnée dans ma chambre d'hôtel. Mais ma chambre d'hôtel, c'était un palace qui donnait sur le lac. Et moi, j'étais très en forme. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé parce que j'ai un total blackout de ma mémoire. Mais je crois que j'ai fait des trucs incroyables parce que je me suis réveillée au petit matin, toute nue, avec mes chaussures mouillées. Donc je pense que je suis allée me jeter dans le lac. Je sais pas avec qui, parce que on a fait un appel à témoins. On a eu tellement de témoignages discordants que je préfère ne pas savoir ce que j'ai fait cette nuit-là.
J'ai les photos exclusives pour vous à la fin de la chronique. Je vous les remets. Reste cette insatiable passion pour le champagne. Il est, Amélie, au cœur de votre vie, comme il est au cœur des longues journées d'été chez Stéphane Bern dans sa villa de Paros.
Les après-midi se passent au bord de la piscine à siroter des cocktails et le soir venu, les prostituées font leur entrée pour divertir les invités.
On ne veut pas tout savoir. Non, avec un peu de chance, ça sera prescrit en 2021. Croisez les doigts. Avec Amélie, on vous laisse. On doit passer à la phase 3 de mon portrait. Cette année, pas de lune de miel à Fukushima. Direction Reims. Mamie s'est décidée, je vends la Punto et je t'achète un vignoble. Car oui, Stéphane, le grand rêve d'Amélie Nothon, ce n'est pas d'avoir une école, un lycée ou une piscine municipale à son nom comme d'autres, mais un champagne. Et pour qui a le loisir de songer à sa postérité, il faut reconnaître qu'imaginer dans 50, 100 ans, des gens s'exclamer j'ai bu un délicieux Nothon hier soir. C'est quand même beaucoup plus flatteur que « Oh, j'ai chopé une mycose dans le pédiluve de la piscine à Mélinoton. » Va donc pour le vignoble. En diamo, Caramilla. En plus, t'as de la chance, j'ai pris l'option radio cassette sur la Punto et comme je connais tes goûts, j'ai évidemment pris l'intégrale de Tool.
Je sais cette merde.
Ce n'est pas de la merde, Stéphane, c'est Tool, le groupe de métal préféré d'Amélie. Essaye de respecter un peu l'invité. J'ai l'impression, Amélie, que Stéphane n'est pas très métal.
Vous savez que Tool, ils ont des vignobles dans le Colorado, mais je pense pas qu'ils fassent du champagne.
Ah non, ils font pas de champagne, mais des vignobles, comme ça vous fait un point commun supplémentaire avec eux.
Ça génial. Vous avez tout à fait raison, je rêve d'avoir mon vignoble.
On dit un mot de votre livre, Amélie Nothon.
Bah oui, ce serait bien.
Comment c'est possible d'écrire un livre aussi bon chaque année? Enfin, où cherchez-vous votre inspiration et que sont ces mauvais romans qui sont dans les tiroirs, enfin qui sont pas dignes d'être publiés selon vous? Franchement, j'ai un doute.
Mon cher Mathieu, vous me posez 15 questions à la fois.
C'est vrai.
La seule réponse que je peux vous donner, c'est qu'il n'existe qu'un seul secret, qui consiste à ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire que le grand secret de l'inspiration, c'est de se rendre compte qu'elle est un mouvement, une espèce de mouvement perpétuel, et que, à la condition que vous ne cédiez jamais à la tentation de la stagnation, ce mouvement peut ne jamais s'arrêter. À l'instant où je finis un roman, je saisis un nouveau cahier et je commence tout de suite le roman suivant.
Et en même temps, elle répond au courrier qui lui arrive chez Albin Michel.
Mais
en parlant de votre livre, que l'on peut aussi offrir, hein, le vol, les aérostats, c'est l'histoire d'Ange, une étudiante belge de 19 ans qui va faire découvrir la littérature à un jeune homme de 16 ans, dyslexique et malheureux. Ange, c'est un peu vous.
Complètement. À 19 ans, j'étais exactement cette étudiante bruxelloise d'un sérieux dramatique, d'une absence de jeunesse consternante. Je vivais dans les livres. J'ai eu d'ailleurs à cette époque beaucoup d'étudiants, puisqu'il me fallait me faire de l'argent de poche. Donc j'avais des étudiants plus jeunes que moi, plus problématiques les uns que les autres. Et je pense que j'étais un professeur terriblement vache. C'est-à-dire que j'arrivais en disant « Ah, vous ne savez pas lire. Eh bien, vous me lirez l'Iliade et l'Odyssée. » Donc et c'était pas idiot, en fait. Parce que provoquer les adolescents par un exercice finalement trop difficile pour eux, ça suscite leur orgueil et ça marche très bien.
Il faut lire en tout cas Les Aérostats, paru chez Albin Michel, le dernier roman d'Amélie Nothon, pour comprendre l'importance de lire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Seule la dose est poison. Nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, une dernière demi-heure que nous avons voulu résolument sobre.
Oui, vouloir quelque chose de résolument sobre, sachant qu'Olivier Pouls n'est pas encore passé, c'est un peu chimérique, mais bon, demandez-lui son thème du jour, Stéphane.
Eh bien, Olivier, dans cette dernière demi-heure où l'on remonte aux origines des inventions, des expressions et des plats, aujourd'hui, votre thème, c'est... On a parlé champagne, on a parlé de Saint-Crème, maintenant vous nous parlez du biscuit de Reims.
Ben voilà, le compagnon, pendant idéal. Très longtemps, le compagnon idéal du champagne, même si aujourd'hui c'est un petit peu moins la mode de tremper le biscuit.
C'est joliment dit, oui. Stéphane. Ah. C'est joliment dit, Olivier. C'est vrai, exactement.
Ne pensez pas que toutes les allusions scabreuses viennent forcément de moi.
Bon. C'est vrai, pour moi, ça devient automatique. Surtout que vous avez le dernier mot, Stéphane, dans cette émission. C'est un moment de solennel.
Pourquoi on appelle la pomme d'Adam?
Je n'en ai aucune idée. J'espère que vous avez enquêté. Et tout de suite, les origines d'une invention. Une invention chère à notre invité Amélie Nothon, le stylo-bi avec vous. David Castello-Lopez.
Tout à fait, le stylo à bille. J'ai vu une petite vidéo, Amélie Nothon, tirée d'une interview où vous expliquez votre rapport au stylo à bille, et plus exactement au stylo à bille jetable. Vous dites qu'on considère qu'ils sont tous pareils, mais qu'en fait ils sont différents. Il y en a qui ont des hémorragies, par exemple. Il y a ceux qui arrêtent de marcher, puis qui remarchent. Et surtout, il y a ceux qui durent incroyablement longtemps. Et ceux-là, que vous appelez les vieux soldats, eh bien vous leur réservez des honneurs.
Dans les stylo à bille, j'ai observé qu'il y avait des véritables héros, ceux que j'appelle mes vieux soldats, mes vieux grognards. On voit qu'ils sont vides, parce que le stylo bille est transparent, donc on voit que la cartouche est vide. Et malgré tout, ils continuent d'écrire intarissablement. Vous écrivez la moitié d'un roman avec lui. Et vient ce moment poignant où il s'arrête, alors je lui réserve des honneurs militaires. Je l'enterre avec vraiment des mouvements d'épée, parce que c'est un vieux grognard qui mérite tout mon respect.
Mais c'est exactement, j'ai envie de vous dire, en fait, qu'à part le fait que vous êtes une grande écrivaine et moi pas, eh bien, on est pareil. Moi, je me souviens, quand j'avais 10 ans, on m'a offert un stylo à billes à motifs tribaux, comme c'était la mode dans les années 90, et je l'aimais de toutes mes forces, et je l'utilisais tellement qu'il a fini par être tout cassé de partout, alors j'ai arrêté de l'utiliser. Mais un jour, peut-être un an plus tard, je suis parti aux États-Unis et je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'emmener parce qu'il le mérite de faire ce beau voyage.
De voir les États-Unis.
Exactement. Et peut-être que le Pélican que j'ai acheté la semaine dernière, il est plus fiable, il est plus brillant, mais il a la vie devant lui. Alors que ce vieillard rafistolé, il a besoin de ce dernier voyage. Et je me trouvais en plus juste et bon et vertueux de faire ça. J'étais aussi très fier de voir le niveau d'encre, comme vous disiez, diminuer dans mes bics, parce que ça voulait dire que j'écrivais beaucoup comme un grand, comme un vrai CM2 et pas comme ces CP nuls dont le niveau d'encre restait toujours le même. Tellement ils écrivaient pas beaucoup, tellement ils étaient nuls. Alors, en France, on appelle ça un stylo à billes, mais il y a plein de pays dans le monde, on appelle ça un biro.
Ah bon?
Pourquoi? Eh bien, parce que le monsieur qui a inventé le stylo à billes moderne, il s'appelait Laszlo Biro. Alors, Laszlo, il était hongrois, comme à peu près 100% des gens qui s'appellent Laszlo. Et ce qu'il cherchait à faire au début, c'était de faire un stylo dont l'encre puisse sécher plus rapidement que celle qu'on mettait dans les stylos à plumes. Alors, il a essayé de mettre de l'encre plus visqueuse dans un stylo à plumes, mais du coup, l'encre ne coulait pas. Alors, il a adapté le système du stylo à billes qui existait, mais à peine dans des versions très rudimentaires depuis 1888. Il l'a perfectionné. Il a réussi à faire un stylo qui marchait à peu près correctement. Il a commercialisé son invention aux États-Unis où elle a été utilisée notamment par les aviateurs pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que vous savez tous, les stylos à plumes dans les avions, ça marche pas terrible. Mais c'était pas encore tout à fait au point, et notamment ça bavait beaucoup. Et là, il y a un monsieur français.
Ah, voilà.
Voilà, qui s'appelle Marcel Bic, Bic, B-I-C-H, et qui a racheté le brevet de Biro et qui a mis au point une version à la fois beaucoup mieux et beaucoup moins chère du stylo de Laszlo. Il lui a donné son nom en enlevant le H, et en 1950, le premier Bic Cristal du monde est commercialisé. Il s'en est quand même vendu plus de 100 milliards depuis, entre autres parce que je pense que ça fait quand même partie de ces designs parfaits. Il y a le côté transparent qui permet de voir le niveau d'encre, on l'a dit, qui descend. Il y a le côté hexagonal.
Ils étaient jaunes avant, au début.
Non, ils étaient cristal. Après, les jaunes sont venus après. C'est des pointes plus fines.
Stéphane, vous êtes plus jeune que vous l'imaginez.
Oui,
ah oui, c'est ça.
Mais je suis d'accord qu'ils ont l'air plus anciens.
Oui.
Parce que ce orange
a l'air. Moi aussi, j'aurais dit comme Stéphane.
Ah oui,
c'est venu après. Le côté hexagonal qui fait que ça fait non seulement qu'on peut bien le prendre en main, mais ça fait aussi qu'il roule pas quand on le pose sur une table. Et quand même, j'aimerais vous parler un petit peu aussi pour finir du bic rétractable qui date de 1956, qui est un petit peu plus ancien, qui a 6 ans de moins, et qui a quand même des qualités que le bic cristal n'a pas, notamment celle de pouvoir être armé et désarmé avec
très
une
agréable,
main, hein, clic comme ça, ce qui est pratique notamment pour les policiers, les garçons de café. Mais petit inconvénient, une grande partie du réservoir du bic rétractable n'est pas visible, ce qui fait qu'on ne voit pas l'encre diminuer jusqu'à très tard, juste avant sa mort. Mais je dois dire aujourd'hui que même en fait avec un bic rétractable, quand je vois que l'encre se termine, quand le niveau continue à baisser, ben j'ai encore cette petite fierté que j'avais quand j'étais en CM2 de dire ben, j'écris beaucoup, c'est comme ça.
Et le psy, vous le voyez magnifique. Combien de fois par semaine?
Rarement, trop rarement.
Trop rarement, peut-être.
Et là, vous nous faites croire que vous écrivez vos chroniques au stylo bi.
Le premier jet est au stylo bi.
Non, c'est pas le premier jet. Il écrit ses chroniques comme Amélie Nothomb. Oui. Justement, Amélie, vous écrivez fort bien, j'imagine, pour que votre éditeur puisse ensuite vous relire et mettre tout ça en format
J'ai
Word.
J'ai une écriture très vilaine, mais relativement lisible.
Oui.
Et je n'écris que au bic cristal bleu, pas du tout au rétractable.
Oui.
C'est d'abord parce que je suis très attachée à cet objet, mais aussi, si votre maquillage est raté, vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez sauver avec le capuchon cristal bleu.
Bon.
Pour le eyeliner, c'est
vrai.
Absolument miraculeux.
C'est-à-dire que pour gratter l'eyeliner qu'on a mis en trop.
Voilà, exactement.
Oui. Ça nous arrive pas, nous, messieurs, mais...
Bon,
mais
ça dépend des soirées.
Oui. En tout cas, merci David, on retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Chers auditeurs, on le confesse, nous avons bu un peu de champagne cet après-midi. Avec
il
modération, mais un petit peu. Maintenant, il s'agirait d'éponger. Pour ça, il y a Olivier Pouls et son biscuit.
Mais surtout les biscuits, c'est pas moi qui vais éponger.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Il est le visage moderne de l'hédonisme et même de l'hubris grec.
ou plus précisément sa version contemporaine, l'hubris belge. Il a été de toutes les soirées, de tous les clusters, sa phrase fétiche pour vous convaincre de le rejoindre pour un apéro improvisé alors qu'on est en semaine et que vous étiez promis de vous coucher tôt.
Oui, bah on n'est pas obligé de se torcher, hein. On peut y aller gentiment.
On peut y aller gentiment, c'est, ça démarre toujours comme ça, c'est toujours un traquenard.
Et vous êtes encore
Olivier.
Tombé dans le panneau la dernière fois.
À chaque fois. Aujourd'hui, vous nous parlez non pas d'un alcool, on a beaucoup parlé de champagne aujourd'hui, mais d'un biscuit qui s'harmonise assez bien avec le champagne.
Surtout qui est originaire, lui aussi, de Reims. Vous le connaissez, évidemment, Amélie, ce fameux biscuit rose, tel qu'on l'appelle. Est-ce que vous en mangez ?
Oui, mais je le préfère en gâteau, quand on en fait des charlottes au chocolat ou au marron.
On peut utiliser pour les tiramisu aussi, par exemple.
Pour les tiramisu, c'est excellent.
C'est l'idée d'un boudoir. Alors, c'est un biscuit qui est né dans les années 1690 et qui est né de l'idée écologique, en fait, d'utiliser la chaleur résiduelle des fours, des boulangers, pour préparer quelque chose après la cuisson du pain. Donc c'est le four était chaud, évidemment, donc ils ont eu l'idée de ce biscuit qui cuit assez lentement, qui cuit en deux fois, d'ailleurs on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, hein, biscuit bis cuit, deux cuissons, puisqu'il est séché dans le four du boulanger à partir du moment où le four est en perte de vitesse calorique, on va dire. Et donc c'est cette idée-là qui a amené la création de ce biscuit. Et à l'origine, il faut dire que ce biscuit était blanc, il n'était pas teinté, et il a été teinté un peu plus tard, au 19e siècle, pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, comme il contient de la vanille, des petites graines de vanille, ça avait tendance à tacher le blanc du biscuit, c'était pas très joli, en tout cas certaines personnes se demandaient ce que c'était, et donc on a mis du colorant, du carmin, dans la préparation, pour le teinter en rouge léger, en rose, dirons-nous. Et l'idée de ce biscuit aussi était qu'il ait suffisamment de tenue pour pouvoir être trempé, alors dans le champagne, mais aussi dans le vin, parce qu'à l'époque, on produisait aussi beaucoup de vin tranquille dans la région, et il fallait pas qu'il se délite. Et donc, ce biscuit séché avait cette faculté de rester croustillant, en quelque sorte, quelques secondes après avoir été imbibé, et de ne pas se déliter dans le breuvage.
Et vous allez nous apprendre comment fabriquer nous-mêmes un biscuit de Reims chez nous, mais ça va pas être un biscuit de Reims, alors.
Eh ben non, ça va être un biscuit de chez vous, mais il faut savoir qu'il reste une maison à Reims, la maison Fossier, qui est aujourd'hui vraiment le garant de la tradition de ces biscuits qui continuent
mais c'est
à le produire.
Moi, je vous raconte ma vie. J'ai fait un petit tour de France du Nord cet été et j'ai ramené des spécialités de chaque endroit et j'ai acheté plein de biscuits roses comme ça de
la maison Fossier.
Et je les ai tous offerts. J'en ai pas goûté un seul en fait. Et c'est vraiment bon.
Vous voulez faire votre appel quotidien à la maison Fossier qu'elle vous en envoie peut-être.
Oui, parce que j'en ai trop donné. C'est mon côté comme ça. Je donne et puis j'oublie. J'oublie de garder pour moi et je m'oublie moi-même.
Mais avec la recette que je vais vous donner, vous allez pouvoir le faire chez vous, mon cher Mathieu. Et c'est en fait assez simple. Il vous faut 2 œufs, 100 grammes de sucre, une gousse de vanille, 90 grammes de farine, 50 grammes de maïzena, un tout petit peu de levure, et puis quelques gouttes de colorant rouge, et puis du sucre glace pour parsemer, pour mettre par-dessus. Alors, c'est vraiment simplissime. Dans le bol d'un robot, vous mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre, vous récupérez les petites graines de vanille que vous mélangez avec la farine, avec la maïzena, avec la levure, hop, tout ça dans le bol. Vous avez une jolie pâte qui va commencer à se former et vous allez l'étaler tout simplement sur une plaque qui va au four. Vous laissez sécher à l'air libre pendant une demi-heure. Vous saupoudrez avec un petit peu de sucre glace et hop, dans un four à 180 degrés pendant un quart d'heure. Et puis vous avez des biscuits de Reims croquants et en même temps aériens parce que c'est la particularité de ce biscuit, c'est qu'en fait il pèse très peu lourd. Il y a 12 biscuits dans 100 grammes. Vous imaginez, c'est vraiment très léger, c'est très aérien.
C'est des aérostats.
Exactement.
Voilà le lien. Vous avez fait un lien sans le savoir avec... Vous
non,
êtes comme Monsieur Jourdain.
C'était
calculé, oui, bien sûr. Merci Olivier. On retrouve évidemment toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et on approche de la fin de l'émission. Et qui dit fin de l'émission dit fin mot de l'histoire, celui de Stéphane, l'histoire d'une expression.
La pomme d'Adam.
La pomme d'Adam, oui. Mais d'où ça peut venir?
À part de la fête foraine.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Alors attention Stéphane, vous parlez aujourd'hui sous le contrôle d'une de nos plus grandes romancières, Amélie Nothomb. N'hésitez pas à me signaler si Stéphane dit une bêtise, il en dit souvent. Voici sa chronique sur les secrets de la langue française, le fin mot de l'histoire.
Oui, d'où vient la pomme d'Adam, Mathieu? Je ne parle pas psychologiquement, on sait que... On
physiologiquement la même, parce que psychologiquement, oui. Ça c'est autre chose.
Je ne
vous
parle
en
pas
parlez
physiologiquement,
vous aussi,
bien sûr. On sait qu'on la trouve sur la face...
Ici, oui.
antérieure du coup, mais d'où vient ce nom de pomme d'Adam ?
Écoutez, il se trouve que je suis assez calé en matière d'attributs masculins. Pomme d'Adam, j'imagine que ça vient d'Adam, le mec de Ève, rapport à la création du monde, tout ça, non ?
Oui, je vois qu'en en matière de fruits défendus, vous en connaissez un rayon, Mathieu. Qui dit Adam dit Ancien Testament, le compagnon d'Ève, contrairement à cette dernière, n'a pas réussi à avaler le fameux fruit défendu, resté coincé dans la gorge. Cela explique donc la pomme d'Adam. Ah. Mais ce qui est cocasse, c'est que le mot pomme n'est inscrit nulle part dans la Bible. On y parle de fruits, mais pas de pomme. Pourtant, dans bien des tableaux, c'est la pomme qui est choisie pour symboliser la tentation. Or, la Genèse dit notamment « Les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. » De figues, il est bien question dans la Bible, mais pas de pomme. L'origine de la confusion vient sûrement du Nouveau Testament. Le fruit défendu est appelé « pomum ». Or, si le mot signifie exclusivement « fruit », il ressemble au mot « pomme ». Une ressemblance qui a poussé les artistes à figurer Ève tenant une pomme à la main. Voilà, un dernier mot, mais un peu long. Chondrolaryngoplastie. Vous connaissez ce mot ?
Ah non, c'est la première fois que je
l'entends. C'est quand vous êtes complexé de la pomme d'Adam. Certains hommes, là pas autour de la table, non, l'ont de façon très proéminente. C'est la réduction chirurgicale de la pomme d'Adam. Mais après tout, est-ce que c'est gênant et qui sommes-nous pour juger ?
David, vous n'avez pas ce complexe, on sait que vous en avez certains.
Non, moi c'est l'espace entre mon nez et ma bouche.
Voilà, c'est uniquement cette zone-là de votre corps. Olivier, vous ne vous posez pas de questions, évidemment.
Mais on dit que c'est qu'on a beaucoup de... Enfin, on est très masculin, on a une pomme d'Adam.
Mais oui, mais c'est un moyen parfait pour savoir si on a affaire à un homme ou à une femme, parce que c'est vrai que chez les femmes, on ne voit pas la pomme d'Adam.
Oui.
Voilà.
Un conseil pour Olivier, la prochaine fois, vous irez au Bois de Boulogne, vérifiez toujours la pomme d'abord. Un nouveau numéro.
C'est pas ce qu'il regarde en premier.
Un numéro tout à fait exceptionnel d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était dédié à ces personnages de l'histoire qui avaient un lien particulier, privilégié au champagne. En présence d'Amélie Nothomb, la direction d'Europe 1 avait fait part de ses réserves quant à la thématique de cette émission, craignant notamment qu'Olivier Pouls ne joigne le geste à la parole en débarquant en studio avec quelques bouteilles millésimées. Il n'en fut rien, en tout cas, c'est le scénario que nous allons maintenant tenir jusqu'au bout, et c'est parfaitement sobre que nous allons prendre congé de vous.
Oui,
Amélie, est-ce que vous avez appris des choses sur le champagne que vous ne connaissiez déjà ? Parce que vous êtes quand même très calée.
Oui, je ne savais pas que Dom Pérignon était aveugle. Je l'ai appris aujourd'hui.
Ah, c'est dingue, parce que c'est un élément très...
C'est très important, et ça fait de lui un véritable héros zen. C'est très japonais, ce moine aveugle, c'est très zen.
Stéphane, vous avez découvert des choses ?
Écoutez, moi, j'ai le bonheur, c'était d'écouter Amélie Nothomb parler du champagne. C'est parce qu'il y a une... Elle sait mettre les mots là où nous n'avons que glou-glou, c'est bon.
Parlez pour vous, Stéphane, j'ai quelques mots de vocabulaire. Glou-glou. Une chose que vous devez connaître, Stéphane, en revanche, c'est le programme qui nous attend demain.
Oui, demain, on peut l'affirmer, la bamboche, c'est pas terminé. Ah. On réunit trois rois de la fête qui n'auraient pas pu la faire ensemble. De vrais rois, comme Louis XIV et François Ier, et un roi de la nuit, ou plutôt un prince, Michou. Tout ça en présence d'un invité spécial, Bruno Solo.
Mais c'est moi qui vais devoir faire Michou, j'imagine.
Si vous voulez.
C'est moi qui traiterai ce personnage-là. Oui. D'habitude, je fais les vivants. Là, c'est limite.
Il est pile de l'autre côté de la limite.
On remercie encore Amélie Nothomb d'avoir été avec nous cet après-midi. On rappelle votre dernier roman, Les Aérostaches et Albin Michel. Stéphane, un dernier mot. Oh la vache. À demain, Stéphane. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.